Le texte que je vous invite à entendre et à méditer ce matin est celui proposé par la liste des lectures bibliques communes aux églises pour aujourd'hui. Il se trouve également que c'est un texte qu'un des groupes du Foyer de l'âme, le groupe Théo et Psycho, a eu l'occasion de lire dans son parcours d'année avec le livre de Marie Balmarie, Le sacrifice interdit. Et comme ce groupe a justement tenu sa dernière réunion de l'année vendredi soir, eh bien cette coïncidence m'a conduite à choisir ce texte pour aujourd'hui avec reconnaissance et dans la reconnaissance pour le cheminement commun de ce groupe. Il s'agit de la fin du discours que Jésus adresse à ses disciples, à ses 12 disciples, lorsqu'il les envoie en mission. Ce discours constitue l'ensemble du chapitre 10 dans l'évangile de Matthieu. Curieusement, au début du chapitre 11, c'est Jésus qui part proclamer le message dans les villes et apparemment ses disciples se contentent de l'accompagner. Mais bon, Matthieu a regroupé dans ce discours des éléments qui se trouvent répartis en divers endroits des évangiles de Marc ou de Luc, dont il s'est inspiré, qu'il a eu comme source pour sa propre écriture, mais des éléments, des morceaux qui sont répartis dans ces deux évangiles à des endroits différents. Et donc nous lirons pour aujourd'hui, au chapitre 10 de l'évangile selon Matthieu, des versets 34 à 42. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui me préfère père ou mère n'est pas digne de moi. Et celui qui me préfère fils ou fille n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète obtiendra une récompense de prophète. Et qui accueille un juste en sa qualité de juste obtiendra une récompense de juste. Quiconque donnera à boire, ne serait-ce qu'une coupe d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense. Pour le monde qui est et pour celui qui vient, nous voudrions entendre parler de paix, de justice, de fraternité, d'actions concrètes, bénéfiques pour l'humanité et pour la planète. Et voilà que ce matin, avec Matthieu, nous sommes obligés de faire un pas de côté, et un grand pas. Au point que nous pourrions nous dire, enfin ça commence plutôt mal, une épée, des divisions, des familles explosées, et puis quelle radicalité dans ses exigences. Faut-il se sentir coupable d'aimer ses parents ou ses enfants? Puis la situation actuelle n'est-elle pas assez compliquée, difficile, angoissante, éprouvante, incertaine? Alors faisons ce pas. Nous avons le bonheur d'entendre ici, au début mars, le professeur Olivier Abel, que j'ai revu hier lors de l'édition 2020 des Rendez-vous de la pensée protestante. Le professeur Abel aime à partager une formule du philosophe Paul Ricoeur, qu'il a redite d'ailleurs hier à ses rendez-vous. Pour accueillir un autre que soi, il faut avoir un soi. En tremblant un peu, je me risquerai à décliner la formule. Pour parler avec un autre que soi, il faut avoir un soi. Pour vivre avec d'autres que soi, il faut avoir un soi. Avoir un soi. Eh bien, je crois qu'il est question de cela, dans cet extrait du discours de Jésus à ses disciples, au moins dans la première partie. Jésus parle à ses disciples. Vous verrez, si vous lisez le début du chapitre 10, il les envoie avec toute une série de recommandations, à la fois pratiques et spirituelles, et puis avec des mises en garde contre les dangers auxquels ils seront forcément confrontés. Et il est vrai que les deux dernières décennies du 1er siècle sont extrêmement agitées et périlleuses pour les communautés chrétiennes, entre rupture avec le judaïsme renaissant et persécution romaine. Pour nous ici et aujourd'hui, la situation est différente, mais ce monde, cette société est celui ou celle dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous pourrions dire que nous sommes envoyés au moins vivre. Et même si le terme de disciple peut être discuté, plus ou moins bien reçu, eh bien j'espère que je ne m'avance pas trop en supposant que si nous sommes ici ce matin, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, l'Évangile, bonne nouvelle de vie et d'amour, résonne en nous et qu'il éveille et mobilise quelque chose en chacun de nous, une curiosité, une simple curiosité ou un bouleversement. Et que ce soit la curiosité ou le bouleversement, nous venons ici pour chercher à comprendre, à le comprendre pour notre existence, notre présence au monde, parmi d'autres et avec d'autres. Et pour cet « avec », en rencontre, en dialogue, en collaboration, parfois en conflit, il faut avoir un « soi ». Et c'est cela, ce soi que Jésus découpe au travers des ensembles dans lesquels chacun est inséré, et en premier, en particulier le premier des lieux d'insertion de nos vies humaines, les parents, la maison et puis les enfants, les beaux-parents et tous ceux qui constituent la proximité immédiate. Jésus découpe, et c'est pourquoi il parle d'un couteau. Car ce n'est pas un glaive comme le traduit la NBS. Le terme grec désigne d'abord un couteau pour couper, pour trancher. Parce qu'il ne s'agit pas de faire la guerre, ni de tuer qui que ce soit, et pas non plus de se servir de ce verset pour se justifier de semer la zizanie, la discorde par aigreur ou par ambition personnelle. Ce couteau-là, celui dont il est question, ne coupe pas pour trancher la personne, mais il coupe entre les personnes, entre des personnes considérées comme très proches, entre père et fils, entre mère et fille, entre belle-mère et belle-fille. Et le couteau divise l'ensemble. Il divise le groupe considéré comme une globalité structurée, et structurée selon des normes sociales et religieuses bien établies, chaque époque, chaque lieu, les siennes. Cette séparation n'est pas sans rappeler le geste créateur du premier chapitre de la Genèse. Mais cette séparation consonne également avec l'appel d'Abraham. Tout le chemin de ce nomade, un chemin jalonné de séparations dont certaines sont difficiles, mais qui font de lui le patriarche, la figure reconnue, la figure fondatrice de peuple et de foi. Séparation d'avec la terre et la maison de son père, séparation d'avec son neveu Lot, séparation d'avec lui-même lorsqu'il devient Abraham, Dieu lui donne un nouveau nom. Séparation d'avec sa femme, nommée à nouveau elle aussi, Sarah, y devient Sarah. Séparation d'avec son fils Isaac, à travers l'épreuve de la ligature d'Isaac, ce qu'on appelle souvent le sacrifice d'Isaac. Et puis séparation même d'avec son Dieu. Parce que ce Dieu qui lui parle, ben c'est aussi le Dieu qui s'adresse à d'autres que lui, et même d'autres qui ne partagent pas forcément sa foi, comme le roi Melchisédek. Ces séparations, que ce soit pour Abraham, ou pour les uns et les autres ici et ailleurs, Ce ne sont pas toujours des départs, des distances géographiques, ce ne sont pas toujours des adieux, on ne se reverra jamais, ce ne sont pas forcément des ruptures définitives, mais des séparations symboliques qui rompent des liens de dépendance, de possession, à cause desquels les uns et les autres ne peuvent devenir qui ils sont appelés à devenir. Ce sont des séparations qui coupent les images forgées par les regards des uns portés sur les autres. Car il s'agit de vivre sa propre existence, d'être soi, et non celui que la généalogie, le cadre social ou la loi religieuse imposent à travers des identités déjà toutes faites. Devenir soi, absolument singulier, unique et infiniment précieux. Le Dieu révélé par Jésus-Christ fait fi des considérations biologiques, familiales, sociales ou religieuses. Et cela, ça crée un écart, un espace de liberté entre la personne, entre chacun, et les identités qui lui sont conférées. Cela crée un écart entre la personne unique et singulière et les qualités qui lui sont attribuées, qu'elle le valorise ou qu'elle le disqualifie aux yeux des autres ou de lui-même. Cela, nous l'appelons la grâce. Parole qui distingue pour faire surgir au monde une personne nouvelle et renouvelée, née à nouveau, dirait l'évangéliste Jean, disait Jésus à Nicodème. Le couteau qui coupe, parole qui distingue, grâce qui fait naître à nouveau, cela ne détruit pas les relations d'affection, qu'elles soient familiales ou autres. Et la relation au Christ ne remplace pas, ne supplante pas toutes les autres. Bien au contraire, c'est l'écart d'une juste distance qui donne à chaque affection, à chaque solidarité, leur pleine dimension, leur pleine profondeur, par la reconnaissance de soi et de l'autre, sans fusion, sans emprise, sans domination, et par l'estime de soi, qui est la conséquence de la grâce et qui confère une qualité particulière et bénéfique du rapport à soi-même et aux autres. Et si les paroles de Jésus inscrivent une extrême radicalité, « Celui qui aime son parent ou son enfant plus que moi n'est pas digne de moi », c'est qu'elles pointent une extrême mécompréhension de ce bouleversement, de cette nouvelle naissance provoquée par la grâce, par le surgissement de la personne sujet de son identité. Et il est vrai que le champ familial est propice aux manipulations, aux culpabilisations, aux étouffements des singularités. Et c'est peut-être bien ce pourquoi les religions l'investissent parfois, malheureusement sans précaution, sans délicatesse et sans retenue, jusque dans le plus intime des personnes et des relations, pour y imposer des rôles et des comportements, le plus souvent au service de la conservation de leur propre pouvoir. N'est pas digne de moi. Certains entendent cela comme une condamnation, surtout des autres. Mais n'y a-t-il pas là surtout l'indication du chemin toujours ouvert, toujours possible, un chemin intérieur vers une existence particulière, séparée, particulière, c'est-à-dire mise à part d'un ensemble resserré, une existence singulière et déliée de ce qui la soumet à une conception déjà fixée de la place de chacun. Un chemin intérieur vers une manière de vivre responsable pour soi-même et devant le Dieu de grâce. Quand le couteau passe et sépare les uns des autres, quand la grâce est donnée et reçue, quand la grâce donnée est reçue, c'est la logique de la vie qui change. Et cela n'est pas sans provoquer un débat intérieur. Ce que Jésus désigne par l'expression « se renier soi-même ». Là aussi, la force des mots rend compte de l'importance de ce qui se joue. C'est-à-dire de passer d'une identité à la fois construite et imposée par les logiques humaines, de généalogie, de compétences, de performances, à une identité nouvelle donnée par grâce, sans mérite et sans condition. Ce passage, cette Pâque, a à voir avec la croix qu'il faut prendre, chacun la sienne. Non qu'il faille souffrir ou mourir, mais accepter. Accepter que la vérité de nos vies humaines se trouve dans la gratuité du don de Dieu, dans la générosité extrême de l'accueil que Dieu nous manifeste. Générosité que le Jésus de Matthieu a déployée précédemment dans le discours sur la montagne. Accepter cela. Accepter d'où vient notre vérité d'humain et y rester fidèle, c'est cela prendre sa croix. À la suite de Jésus qui a pris la sienne et qui n'est pas descendu de la croix pour se sauver, alors même qu'il y était provoqué par la foule. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre aussi ces deux alternatives. Perdre ou sauver sa vie. Choisir la logique humaine et mondaine de la performance, de la compétition et de la domination, ou la logique divine de la grâce. Les sécurités et les divertissements, ou la reconnaissance. Le désespoir de la vie qui se perd en cherchant à se justifier elle-même, à se fonder sur elle-même, ou la confiance de vivre le présent dans la grâce, dans l'amour donné, dans la générosité offerte et sans condition. Perdre ou sauver sa vie. Enfin, plutôt perdre ou sauver son âme. Parce que le mot grec traduit par vie dans la NBS, psyché, ne désigne pas la vie ni en tant que vie biologique, ni en tant qu'existence. Mais avec l'écart, l'espace de liberté entre soi et autrui, ouvert par le couteau, par la parole, par la grâce, eh bien s'élargit aussi un lieu intérieur, un lieu de débat, un lieu de conversation intime. Et c'est l'espace de l'âme. Là où chacun peut se penser lui-même dans une distance vis-à-vis de lui-même et devant Dieu. L'âme, c'est ce lieu du dialogue intérieur, avec soi, avec Dieu, un dialogue critique et qui peut même parfois devenir un peu âpre. Quand le pasteur Wagner a nommé ce lieu « foyer de l'âme », il n'aurait certainement pas exprimer les choses de cette manière. Mais cette nomination indique à quel point l'âme est une dimension invisible et essentielle de la personne et à quel point il est important de l'entretenir, c'est-à-dire d'en prendre soin et de poursuivre, de nourrir cette conversation intérieure. Notre âme, c'est notre conscience de nous-mêmes, reconnaissante et responsable, c'est-à-dire capable de répondre, et cela au fil du temps, tout au long du temps dont chacun disposera, car personne n'est jamais terminé, personne n'est jamais achevé. Car il s'agit de vivre, d'être vivant, plongé dans le présent et dans le monde d'ombre et de lumière, pour y interpréter librement sa vie, selon soi. Car l'Évangile, bonne nouvelle de la grâce, de l'amour et de la générosité, en donne à chacun l'autorité. Comme il donne, et c'est ainsi que Jésus termine son discours, l'Évangile, la grâce, la parole donnent à chacun de recevoir ce qui est offert, ce qui lui est offert. Le soi n'est pas défini par un héritage, ni par des traditions, ni par des possessions, mais par la capacité d'accueillir ce qui est donné. Recevoir la paix, à travers la réconciliation intérieure avec soi, avec Dieu, une paix qui n'est pas la tranquillité, car elle n'évite surtout pas d'avoir à affronter épreuves et crises, et puis recevoir même une simple coupe d'eau fraîche, un simple verre d'eau, mais en étant capable de goûter l'ampleur de cet humble geste qui, contre toute logique humaine, prend alors une saveur d'éternité. Et il y a là bien plus à gagner qu'à perdre. Et ceci est sûr.